20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Même si son nom est associé à quelques pages emblématiques du répertoire de ballet, Picasso n'a jamais revendiqué un intérêt pour la musique. Et pourtant, elle irradie son œuvre, comme en témoigne la formidable exposition que lui consacre la Philharmonie de Paris. Une exposition dans laquelle nous déambulerons ce soir en compagnie de sa commissaire Cécile Godefroy. Le temps de nous intéresser à quelques autres événements de l'actualité musicale. Andris Nelsons vient d'être renouvelé à la tête de ses deux orchestres à Boston et à Leipzig, où ses contrats de directeur musical ont été prolongés jusqu'en 2025 et 2027. Le chef letton s'est dit particulièrement reconnaissant et honoré de poursuivre son aventure avec ses phalanges qu'il considère comme ses deux familles musicales. Près de 400 musiciens britanniques, parmi lesquels la violoniste écossaise Nicola Benedetti, ont manifesté hier devant le palais de Westminster, siège du Parlement de Londres, en interprétant 20 secondes de l'une des planètes de Gustav Holst, 20 secondes correspondant au maximum de 20% de soutien financier auquel les musiciens indépendants peuvent prétendre de la part du gouvernement britannique. Plutôt que de les rassurer, Rishi Sunak, le chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire le ministre des Finances, leur a tout simplement conseillé de chercher du travail dans d'autres secteurs, ce qui ne devrait pas apaiser leur colère. C'est à lire dans l'article publié sur le site de Radio Classique, article signé Philippe Gau.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Des nouvelles plus positives à présent. La programmation de la prochaine édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence vient d'être révélée et la billetterie est désormais ouverte. Une programmation qui s'annonce particulièrement alléchante avec plus d'une trentaine de concerts, une création mondiale, une création française d'une œuvre d'Arvo Pärt, des artistes d'exception, Joshua Bell, Maria Joao Pires, Steven Kovacevic, Victoria Postnikova, deux grandes phalanges, l'orchestre du Festival de Budapest, celui de la Scala de Milan, les siècles, les arts florissants, mais aussi la nouvelle génération, les talents de demain et ceux qui nous émerveillent déjà, à l'instar du pianiste Alexandre Kantorov, qui sera d'ailleurs en concert avec son propre père, Jean-Jacques Kantorov. Rendez-vous donc du 27 mars au 11 avril pour cette édition, l'édition des retrouvailles, comme me l'a confié Renaud Capuçon, le directeur musical du Festival de Pâques.
C'est une sorte de libération de pouvoir faire ce festival et dans des conditions, je dirais, nous on est optimistes, on est pragmatiquement optimistes, c'est-à-dire qu'on est conscient des gestes barrières, on est conscient de toutes ces choses, des distanciations, mais on va faire le festival avec ces conditions.
Un festival placé sous le signe du partage, le partage notamment entre les artistes de la jeune génération qui sont particulièrement à l'honneur, qui l'ont toujours été, mais qui le seront peut-être encore plus cette année, et leurs aînés, et leurs prestigieux aînés d'ailleurs.
Oui, j'aime donner l'exemple d'Alexandre Kantorov et son père Jean-Jacques, qui représentent à eux deux tout ce que j'aime dans la musique, c'est-à-dire la jeune génération brillante, et puis le musicien extraordinaire qui est Jean-Jacques Kantorov, violoniste, chef d'orchestre. Et donc ils vont jouer ensemble les trois sonates de Brahms. Voilà, pour moi, c'est l'image même de ce festival, c'est à la fois la famille, l'amitié, la musique, les générations, le savoir des plus anciens. Tout ça mis finalement en musique dans un seul concert. Ça, c'est merveilleux. Et puis le dernier concert qui sera le concert avec la Carian Academy, ça aussi c'est merveilleux parce que de voir tous ces jeunes qui se destinent à rentrer dans un grand orchestre en Allemagne ou ailleurs et avec qui je vais partager la scène, ça me réjouit beaucoup.
Vous reprenez vos fondamentaux, Renaud Capuçon, ceux qui ont fait l'ADN du festival, mais avec des touches nouvelles et notamment avec des artistes qui ne sont jamais venus comme William Christie par exemple ou Maria Joao Pires qui avait failli venir.
Oui, j'aime aussi ouvrir des portes qui sont toujours sur des horizons différents. L'avenue de Victoria Postnikova aussi, qui est une grande pianiste russe, qui est très très rare en ce moment sur les scènes internationales, qui jouera avec Gérard Cosset. Je crois que c'est une première. Ils vont jouer la dernière sonate de Shostakovich et puis elle jouera les tableaux d'une exposition. Mais aussi, effectivement, Maria Joao Pires qui est jamais venue, ou William Christie, qu'on est très heureux d'accueillir avec son ensemble.
Que diriez-vous aux auditeurs par rapport à ce futur, à notre projection sur le futur?
Ce que je veux dire simplement aux auditeurs et à tous les les futurs spectateurs, c'est la culture est comme une nourriture. D'abord, on a tous constaté pendant le confinement. Et je pense qu'il faut enlever les peurs, enlever les angoisses. Bien sûr que le virus est présent, il va falloir s'habituer à vivre avec. Mais on ne craint absolument rien assis dans une salle avec une distanciation et un masque. Ça a été prouvé. Et je pense qu'au contraire, on peut venir là en sachant qu'on est protégé, en sachant que l'équipe entière du festival, et Dieu sait si c'est une équipe merveilleuse, fera tout pour que vous vous sentiez bien. Et puis, les artistes sont là pour vous. Je crois que c'est indispensable pour nous, les artistes, de jouer pour vous. Et pour ceux qui aiment la musique, c'est indispensable pour vous aussi d'écouter de la musique en vrai. Oubliez le temps de ces concerts, et d'autres concerts d'ailleurs, mais oubliez les angoisses qu'on a tous, c'est vrai, par rapport à cette situation. Mais faisons-nous du bien avec la musique.
Quelques notes du concerto pour violon de Korngold par Renaud Capuçon avec ici l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam. Renaud Capuçon qui jouera entre autres ce concerto de Korngold le 28 mars au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Festival dont vous découvrirez la riche programmation en ligne et dont la billetterie est désormais ouverte. Et un festival que nous vous ferons vivre bien entendu cette année encore sur Radio Classique.
Le journal du classique sur Radio Classique.
Se tient en ce moment et jusqu'au 3 janvier une fascinante exposition à la Philharmonie de Paris, exposition intitulée « Les musiques de Picasso », fruit de 4 années de recherche autour d'un sujet qui n'était pourtant pas forcément évident, comme nous le raconte la commissaire de cette exposition, Cécile Godefroy.
L'artiste, comme il l'a dit lui-même, n'était pas un grand mélomane, il n'était pas musicien, il n'écoutait pas de musique dans ses ateliers. Quand on a commencé à interroger la famille, on nous a dit « mais ça n'est pas un sujet, Picasso, c'était pas Chagall, c'était pas Matisse, c'est pas un grand passionné de musique, en tout cas de musique savante ». Mais de l'autre côté, il y avait un constat qui était quand même assez évident, c'est que la musique est partout présente dans son œuvre. Et dans sa vie, au travers de ses amitiés, notamment avec les musiciens. Dans un siècle où la musique est si souvent associée au début de l'abstraction picturale, elle est presque source ou prétexte à ces pionniers de l'abstraction pour se défaire du sujet, se dégager du sujet en peinture. Picasso, on va le voir, à l'inverse, s'il s'intéresse à la musique et s'il l'intègre dans son imaginaire de peintre, c'est au contraire pour la montrer telle qu'il la voyait, telle qu'elle s'incarnait en un sujet, en un personnage, en un instrument, en une scène, un lieu, un moment de vie partagé. Et c'est ce que l'on va voir dans cette exposition qui réunit donc 270 œuvres peintures, sculptures, gravures, dessins, des petites choses amusantes comme des peintures sur tambourin, mais aussi beaucoup de documentation, correspondances, cartes postales, documents, partitions de musique et les instruments de musique qui lui ont appartenu. Et donc vous verrez, avec cette exposition, non seulement on rentre dans le sujet musical, mais on rentre aussi d'une certaine manière dans la vie de Picasso, dans son intimité.
Un enregistrement historique d'Enrique Granados, un enregistrement de 1912. Enrique Granados jouant ici l'une de ses danses espagnoles. Il s'agit d'un extrait des enregistrements qui constituent l'accompagnement sonore de cette exposition Les Musiques de Picasso, qui se tient à la Philharmonie de Paris et dont je vous invite à découvrir quelques salles, quelques étapes du riche parcours qui nous est proposé, et cela en compagnie de Cécile Godefroy, la commissaire de cette exposition. Alors nous voici en Espagne, à Barcelone, où Picasso fréquente peintres, poètes et musiciens catalans qu'il croise dans un célèbre cabaret. Ses œuvres racontent cette vie nocturne où la musique est présente mais reléguée en fond de scène, car pour Picasso, la musique ne s'écoute pas forcément religieusement assis dans un fauteuil, mais elle fait partie d'une ambiance et appartient surtout au monde populaire.
Alors bien sûr, dans toutes ces musiques d'Espagne qui sont très variées, très diversifiées, qu'on ne pouvait pas toutes aborder, il y a le flamenco. Flamenco qui insuffle une grande partie de l'œuvre de Picasso et aussi l'œuvre poétique. Car Picasso était un grand poète, comme le montre l'exposition du musée Picasso à Paris en ce moment. Sa poésie, elle est traversée donc, de sonorités, d'instruments de musique, et puis surtout son rythme. Le rythme, comme vous le voyez ici, n'est pas du tout ponctué, il n'y a aucune ponctuation dans la poésie de Picasso, qui remplissait les pages à son extrême, et qui joue des allitérations et des répétitions, ce que l'on voit ici avec le saltamonte de la rota, saltamonte, donc sauterelle. Saltamonte, 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 salta vida. Donc, c'est un rythme très saccadé qui renvoie au rythme du taconeo, donc ces battements de talons effectués par les joueurs de musique gitane. Flamenco encore, avec cette très belle danseuse de flamenco. Vous percevez ici en détail cette scène de corrida, donc une espèce de fusion des deux sujets qui tiennent vraiment à cœur ce Picasso aficionado. Une partie du flamenco, le cante rondo, ce chant profond, tragique, mélancolique que Picasso connaissait très bien et qui lui le renvoie à sa jeunesse andalouse, et qu'il traduit ici dans ce très beau et masque de chanteur aveugle, donc une représentation pathétique du chanteur hein, qui semble crier plus qu'il ne chante. D'ailleurs, vous remarquerez avec ce chanteur, cette vieille femme implorant, ou les trois violonistes de rue, que la musique dans ces années est associée à une forme de tragédie chez Picasso. La musique est solitude, la musique est une forme de misère sociale, c'est une musique de rue essentiellement, qui renvoie vraiment à sa ville de naissance, à sa ville d'origine, qui était bordée de quartiers gitans. Son père, José Ruiz Blasco, emmenait, donc d'après ses grands biographes, emmenait le jeune Picasso tout petit dans les rues, et Picasso aurait été marqué par ces manifestations spontanées dans les rues de chanteurs, de danseurs gitans.
La
La chanson du Feu Follet, extrait de L'Amour sorcier de Manuel de Falla, avec ici Marina Heredia et le Mahler Chamber Orchestra, dirigé par Pablo Heras Casado. Un enregistrement que vous retrouverez dans le double album publié par Harmonia Mundi, en écho à cette exposition de la Philharmonie de Paris. Une exposition dont je vous invite donc à découvrir de nouvelles étapes, toujours en compagnie de notre guide Cécile Godefroy. Nous passerons du monde du cirque jusqu'à l'épopée cubiste.
L'univers donc du cirque, très important à Picasso. Picasso adorait aller au cirque, il adorait aller à Medrano, en compagnie notamment de ses deux complices poètes Max Jacob et Guillaume Apollinaire. Et c'est justement en connexion avec Apollinaire que Picasso va tirer du monde du cirque cette figure très importante pour lui, qui est la figure d'Arlequin. Et donc, on retrouve cette figure d'Arlequin qui va ensuite rester tout au long de l'œuvre et de la vie de Picasso. Parce que, pourquoi ? Parce que l'Arlequin, ou plus généralement le saltimbanque musicien, c'est une forme d'autoreprésentation de Picasso. Il y a une identification de Picasso à la condition du saltimbanque, notamment dans ces années où Picasso est dans une misère profonde. Et où donc il y a toujours cette association entre musique et une certaine forme de tragédie. Et puis aussi le saltimbanque, c'est un ambulant qui va de ville en ville, qui se met à nu à chaque fois, à chaque représentation. Et c'est un peu la façon dont Picasso se voit face au monde de l'art, en quelque sorte. Donc vous avez vu, jusqu'à présent, la musique, elle s'incarnait surtout au travers de personnages, de musiciens ou de danseuses. C'est encore le cas avec cette très belle peinture de l'homme à la mandoline de 1911 qui montre un moment critique dans l'histoire du cubisme, ce cubisme qui est mené, encordé par Picasso et par Braque, où le sujet est en train de disparaître. Hein, c'est-à-dire qu'à force de démultiplier donc, les points de vue, de décomposer le sujet par ligne, par plan, par oblique, d'effacer en quelque sorte la palette chromatique, en tout cas de la réduire à son minimum, on voit bien que la figure elle est en train de disparaître. C'est-à-dire que là, on peut deviner la tête de la mandoline, mais sans l'aide du titre, on est quand même un peu démuni face à ce tableau. La Picasso en a complètement conscience, Braque aussi. Ils sont allés tellement loin dans cette aventure cubiste qu'ils sont proches de cette abstraction qu'ils ne veulent absolument pas. Donc ils vont devoir trouver les moyens d'évoquer ce réel qui est menacé. Et l'instrument va devenir un objet presque idéal pour justement se raccrocher à ce réel, car en effet, une simple tête ou un chevalet de violon, une rosace ou une note de musique ouvre tout à coup un imaginaire extraordinaire, imaginaire musical bien sûr, mais un imaginaire populaire du côté de Picasso, plus savant du côté de Braque, et qui va permettre avec un minimum de signes de garder un lien avec ce réel tout en le représentant différemment, c'est-à-dire de façon non mimétique, non académique. Oh!
C'est la soprano Sophie Kartheuser que l'on écoutait dans la mélodie Mandoline de Debussy, accompagnée au piano par Eugene Asti, un nouvel extrait de cet album, Les musiques de Picasso. Et nous voici dans l'atelier de Picasso, où le peintre avait rassemblé une collection d'instruments, des instruments que l'on retrouve justement dans cette exposition à la Philharmonie de Paris, que l'on continue à visiter en compagnie de sa commissaire Cécile Godefroy.
Tous les instruments qui sont présents dans l'exposition donc, ont appartenu à Picasso, ont été retrouvés dans la famille à différents endroits, dans différentes collections de la famille du peintre. Et ils ont tous été restaurés par le musée de la musique de façon à pouvoir être réunis et présentés dans l'exposition pour la première fois. Et notamment cette guitare. C'est une guitare assez banale. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'instrument de grande valeur chez Picasso. Ce n'était pas du tout ce qui l'intéressait. Et en fait, cette guitare, il l'a utilisée, comme vous le voyez, dans des installations éphémères où il met en scène la guitare devant des tableaux en cours d'exécution, se substituant lui-même parfois à la figure du musicien, devenant guitariste dans la composition d'ensemble. Et donc, on voit combien Picasso a cherché à comprendre l'instrument, mais dans toute sa matérialité. On a presque l'impression qu'il a désossé la guitare, en fait, pour mieux la comprendre. Et c'est ce qu'un luthier, d'ailleurs, m'a dit. Dans certains dessins, il y a des éléments qui sont en fait des éléments d'assemblage qui sont invisibles lorsqu'on regarde une guitare. Il faut vraiment soit avoir traîné dans l'arrière-boutique d'un luthier, soit avoir carrément désossé l'instrument pour retrouver ces éléments cachés. Et on voit comment Picasso justement va étirer le sujet de la guitare dans tous les sens. Il la met à plat, il la déconstruit, comme ici avec ce très beau dessin de 1912. Et puis, il l'a reconstruit aussi avec cet assemblage prêté par le musée Picasso Paris en carton et papier, découpé, plié, où vous retrouvez tous les éléments de la guitare. Mais comme vous le voyez, c'est une autre manière, bien sûr, de représenter un sujet. Une manière qui n'est plus du tout mimétique et qui fonctionne par signes. Par exemple, regardez le manche de la guitare avec les frettes qui est présenté en escalier. Et le luthier, toujours, m'a fait remarquer que c'était une manière pour Picasso de retranscrire la vision des guitaristes qui, quand ils jouent, montent et descendent voilà, le long du manche. Donc, voilà, dans un tout petit objet qui est toujours resté dans l'atelier de Picasso, il ne s'en est jamais séparé. C'est assez magique, parce que là, on est vraiment sur le côté expérimental de la musique. Et on voit combien la musique, ici, joue le rôle de matériau pour Picasso.
Thank you.
Un petit extrait des Mariés de la Tour Eiffel par l'Orchestre National de France et Charles Dutoit. Les Mariés de la Tour Eiffel, œuvre collective du groupe des Six, dont Picasso était très proche. Une salle de l'exposition de la Philharmonie de Paris évoque justement les amitiés musicales du peintre.
Évidemment, dans cette salle, nous évoquons Jean Cocteau et le groupe des Six, qui était très proche de Picasso dans les années 20. Cocteau, à nouveau ici, jouant du xylophone, un xylophone qui n'est pas dans l'exposition, mais qui est présenté actuellement dans les collections du Musée de la Musique. Poulenc, que Picasso rencontre probablement au moment de Parade, et que l'on retrouve en 57 avec Le Travail du Peintre, qui est un recueil donc, de compositions de Poulenc, et la première partition est dédiée à Picasso. Picasso en retour qui réalise ce portrait du compositeur. Mais on évoque aussi des choses qui sont moins attendues. Alors par exemple ici la rencontre avec Rostropovitch à Mougins, donc en 1972. Rostropovitch qui en partant et après avoir joué les suites de Bach à Picasso a offert son archet à l'artiste et à Jacqueline. Ici un portrait d'un imitateur de Paganini, donc Picasso aurait toujours gardé auprès de lui. Là, une sculpture d'Oscar Dominguez, qui est un gramophone détourné que Picasso avait dans son atelier rue des Grands Augustins, une sorte de sculpture érotico-musicale, puisqu'elle fonctionnait. Ici, un cadeau réalisé pour Landa Kromlin, à partir d'une pochette de disques et d'un biscuit Vasa d'époque. Tout un tas de, voilà, d'invitations à des concerts, d'évocations de ces lieux de scène que fréquentait Picasso. Jusqu'à Norman Granz, on évoque même la musique de jazz, parce que Norman Granz était un collectionneur de Picasso. Grand collectionneur, personnage complètement extravagant apparemment, qui chaque fois qu'il venait chez Picasso offrait des cigares, du champagne, mais aussi des disques de jazz, parce que c'était un grand impresario de musique jazz. Et donc, on peut entendre Coleman Hawkins ou Miles Davis, qui eux aussi ont rendu hommage à Picasso. Le Blues for Pablo de Miles Davis et Gil Evans, l'une des illustrations musicales de cette merveilleuse exposition qui se tient en ce moment à la Philharmonie de Paris et dont nous avons évoqué quelques aspects ce soir avec sa commissaire Cécile Godefroy. Une exposition, les musiques de Picasso, que je vous invite plus que vivement à visiter. C'est en ce moment et jusqu'au 3 janvier et elle s'accompagne d'un somptueux livre catalogue. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du chef Kazuki Yamada, le directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Très belle soirée, une soirée qui se prolonge en musique.